Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils étaient 13 cercueils disposés en faisceau cet après-midi dans la cour des Invalides. 13 cercueils pour 13 soldats auxquels le président de la République a rendu hommage après la collision entre deux hélicoptères qui leur a coûté la vie il y a une semaine dans une opération anti-djihadiste au Mali. L'opération Barkhane mobilise en permanence 4500 militaires français au Sahel, mais ils effectuent des rotations et ce sont en fait bien plus de soldats qui sont concernés par cette guerre. La France dit qu'elle examine toutes les options stratégiques et compte demander davantage d'aide à ses alliés. La France peut-elle continuer comme ça au Sahel? C'est la question du jour. Et pour en parler, non pas deux, mais trois invités sont avec nous ce soir. Dans notre studio, il y a Bruno Clément Bollé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère des Affaires étrangères et général de corps d'armée. Et Jean-Marc Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Red, qui est spécialisé dans l'actualité militaire. Et en direct de Bamako, par téléphone, nous sommes avec Ibrahim Maïga. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako, au Mali. Au-delà du nombre de cercueils qui étaient cet après-midi dans la cour des Invalides, il y a un élément marquant, c'est que la plupart de chacun des jeunes soldats auxquels le président de la République a rendu hommage étaient partis souvent plusieurs fois participer à l'opération Barkhane. Ça signifie d'abord qu'il y a plus de 4500 soldats concernés et qu'ils multiplient les missions. L'armée française est-elle en train de s'épuiser avec cette opération, Bruno Clément Bollé?
Épuisé, je ne prendrai pas la question comme ça. Moi, je poserais plutôt, est-ce que l'armée française n'est pas un peu seule? Et je pense tout de suite à un partage du fardeau. Je pense à nos amis européens, dont on sait qu'ils sont présents, mais enfin, ils sont présents quand même quantitativement de façon extrêmement faible. Et puis, en première ligne, il n'y a quand même que les soldats français. Voilà, donc moi je parlais plutôt de l'isolement. Après, l'armée de terre, elle est taillée pour ce type de mission. Hein, c'est dans son contrat, le contrat de son livre blanc. Et elle est taillée donc pour remplir ses missions et effectuer ses relèves, même si ça paraît effectivement extrêmement lourd aujourd'hui. Je note quand même que le chef d'état-major des armées a récemment été auditionné par la commission défense de l'Assemblée nationale et a dit effectivement qu'il était un peu en bout de potentiel.
Jean-Marc Tanguy, vous fréquentez des militaires dans votre magazine Red. Est-ce que ils vous disent que, pour parler un peu familièrement, est-ce que ça commence à tirer un peu?
Non, je pense que c'est une opération qui est très dure, très abrasive, et malheureusement le bilan de la collision de l'autre jour nous le rappelle. Néanmoins, pour répondre à votre première question, je rappellerai quand même que des militaires britanniques sont déjà présents avec trois hélicoptères lourds, très précieux. C'est une capacité que nous-mêmes, on n'a pas, donc il faut quand même pas balayer cette contribution trop tôt. On a également, au sein de Barkhane, 30 militaires estoniens. Alors forcément, ça fait un peu sourire, parce que rapporté aux 4500 de Barkhane, en effet, c'est pas beaucoup. Mais il y a quand même près de 450 commandos des forces spéciales venant de 12 pays européens qui vont arriver sous 6 mois. Alors certes, on peut dire que c'est trop tard, mais ils arrivent. C'est ça qui est l'essentiel. On peut toujours voir les choses, en effet, sous l'angle du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Là, je pense qu'il y a quand même un vrai signal qui est donné. Après, il faudra en effet que ces commandos puissent s'insérer convenablement au sein des forces armées maliennes.
Ibrahim Maïga, quantitativement, le phénomène djihadiste, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est contenu, comme c'est le but de la mission Barkhane depuis le début? Ou est-ce qu'il est en expansion? Est-ce que la mission commence à être un petit peu sous-dimensionnée par rapport au phénomène ou pas?
Alors clairement, ce que les faits montrent, c'est qu'il y a une expansion de la menace terroriste. Aujourd'hui, non seulement les pays du Liptako Gourma, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina, sont concernés par cette menace, mais de plus en plus, les risques pèsent sur les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Donc on assiste non pas à une limitation du phénomène, une circonscription du phénomène au territoire malien ou à l'espace du Liptako Gourma, mais plutôt à une expansion de la menace qui fait peser, comme je viens de le dire, des risques sur les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Vous vous souvenez probablement de l'attaque ou du moins le kidnapping qui a eu lieu au Bénin. Ça montre toute la capacité de ces groupes à se mouvoir dans cet espace qui est vaste. Les pays du G5 Sahel, encore une fois, il faut le rappeler, c'est à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un territoire très vaste, même si ce qu'on constate également, c'est que les espaces frontaliers sont probablement les espaces les plus concernés par cette menace.
Bruno Clément Bollet, est-ce que l'expansion de ce phénomène djihadiste commence à déborder un petit peu le dispositif tel qu'il est actuellement conçu ?
En tout cas, je confirme ce que dit ce chercheur, M. Maïga. La menace, très clairement, elle s'étend. On le voit bien au fil des mois. Elle descend vers le sud. Aujourd'hui, il y a des pays qui commencent à prendre des précautions. Je pense au Togo, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Guinée. Tous les pays qui ont des frontières avec le Burkina Faso ou le Mali commencent à réfléchir, à durcir leurs frontières parce qu'ils craignent effectivement une infiltration. Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je crois que c'est pas seulement... il n'y a pas que ça comme menace. Mm-hmm. Il y a bien sûr ce terrorisme islamiste qui infeste toute la région. Mais il y a aussi, parce que l'État n'est plus en mesure d'assurer les services régaliens dans certaines zones, je pense à la zone Dogon, dans le Massina notamment, les ethnies se protègent en créant des milices qui ne sont pas formées, qui ne sont pas... Et donc qui en fait... surajoute un problème au problème.
Ça veut dire que les djihadistes, parfois, dans une certaine mesure, remplacent les États dans certaines zones et incarnent une certaine forme d'ordre. Vous diriez ça, Ibrahim Maïga ?
Alors, ce n'est absolument pas nouveau. Dans le nord du Mali, au début des années 2000, on sait déjà que ACMI avait une présence dans le nord de Tombouctou et qu'ACMI, Gona Malan, tentait de se substituer à l'État, au moins dans la délivrance de certains services sociaux de base. Ce qu'on voit effectivement, c'est une tentative de répliquer cette expérience un peu partout où l'État est absent ou parfois faible, contesté. Ce qu'on voit également, c'est que ces groupes terroristes, comme on les appelle, se jouent des États, capitalisent sur les failles en matière de gouvernance de l'État. L'un des co-débatteurs sur le plateau a rappelé effectivement l'implication de ces groupes dans la violence ou les violences inter-intracommunautaires. Je crois qu'il est important de préciser que ces violences mettent au prix surtout des catégories socio-professionnelles et qu'au-delà de l'ethnie, ce qu'il est important de voir, c'est la catégorie socio-professionnelle de ces violences-là.
Ça veut dire, Jean-Marc Tanguy, que la solution, elle n'est pas uniquement militaire, en fait. Hein. C'est l'armée française, Barkhane fait ce qu'elle peut, mais ça, c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, pour moi, il y a trois ou quatre pieds qu'il va falloir remettre un petit peu d'équerre. Le pied dont je parlais tout à l'heure avec des forces spéciales européennes qui vont être insérées au sein des FAMA. Un autre pied qui a trait à la sécurité intérieure. On n'est pas là, évidemment, pour faire la police à la place des Maliens ou des Burkinabés. Par contre, on peut fournir des mentors, comme la France l'avait fait en Afghanistan avec un certain succès. Des mentors qui sont originaires de la gendarmerie. Et enfin, dernière chose, évidemment, il faut parler de développement. Tout n'est pas que cinétique ou militaire. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Il y a une grosse année de ça, en octobre 2018, l'Agence française de développement a pu faire un audit assez important des besoins de développement dans le Liptako, la zone qui est aujourd'hui à feu et à sang. Et assez étrangement, cet audit assez complet qui a duré plus d'un mois avec une exposition des experts sur place n'a débouché sur rien. Donc peut-être qu'il faut aussi qu'on balaye devant notre propre porte.
Bruno Clément Bollet, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet-là ?
Oui, je crois qu'à propos de... Quand on parle de ces difficultés, de cette usure de l'armée française, des forces, etc., on pense que la solution, enfin, on sous-entend que la solution est tout sécuritaire. Et on rajoute une couche, et d'ailleurs je note que des forces spéciales danoises notamment vont venir... je crois que la stratégie française, en tout cas c'est comme ça qu'on la présente sur les sites, elle a trois volets. Mmh. Il y a un volet politique, il y a un volet développement, et il y a un volet sécuritaire. Le volet sécuritaire n'est qu'un des trois volets. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui boite ? C'est le volet politique, avec une corruption effrénée, avec des autorités qui abandonnent les services souverains de l'État, comme on vient de le préciser. Et quant au plan du développement, c'est extrêmement difficile. Le plan de l'AFD, effectivement, n'a pas été développé. Il y avait 650 projets qui étaient prévus. Simplement parce qu'il y a une telle insécurité qu'on peut pas les développer.
Ibrahim Maïga, c'est effectivement l'un des aspects du G5 Sahel. On parle souvent des armées du G5 Sahel, mais il y a une question de développement et ça ne fonctionne pas bien actuellement.
Oui, ça a été rappelé. Il y a des défis sécuritaires notamment qui qui empêche le volet développement d'être mis de l'avant. Mais je crois qu'il y a aussi un problème au niveau des acteurs politiques, c'est qu'on a du mal à penser la séquence des interventions. Et donc, du coup, on a le sentiment et la conviction très profonde qu'il faut absolument sécuriser les espaces avant de songer à investir, alors même qu'il y a encore quelques années, on pouvait investir dans certaines zones qui sont aujourd'hui, comme cela a été rappelé, dans des difficultés profondes. Donc, je crois qu'il y a aussi là la question du séquençage des interventions. Et cela, je pense, doit amener aussi les acteurs tant nationaux qu'internationaux à revoir non seulement leur approche en termes d'intervention, d'action sur le terrain, mais à être aussi beaucoup plus humbles dans leur démarche. Parce que je crois que le sous-entendu derrière les défis mis de l'avant dans le cadre de l'opération Barkhane, c'est aussi que Barkhane doit faire tout. Je ne pense pas que Barkhane soit en mesure de tout faire. Je crois qu'il y a aussi une responsabilité importante de la part des États, de la part des acteurs politiques sahéliens d'abord, avant d'interroger, bien entendu, le rôle et la responsabilité des acteurs internationaux, à commencer par l'opération française Barkhane.
Bruno Clément-Bollé, la semaine dernière, Emmanuel Macron recevait Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, et à cette occasion, il expliquait que la France étudiait toutes les options stratégiques. Ça signifie quoi ? Quelles sont les options à l'heure actuelle pour la France?
Les options stratégiques, une option stratégique, c'est par exemple, on vient d'en parler, c'est d'avoir une stratégie globale, s'appuyant sur trois piliers, et en essayant de développer chacun de ces piliers. Il y a un autre élément qu'on peut amener, qu'on peut apporter dans une réflexion stratégique, c'est quelle est la position que doit avoir la France sur le terrain. Est-ce que c'est à la France d'être en première ligne? Est-ce que, si on prend un peu de recul, un peu de profondeur, est-ce que finalement, cette situation sahélienne, il faudra bien finir par la régler. Ça va prendre beaucoup de temps, on le sait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais ça se compte en années, c'est ce que vous voulez nous dire. Même peut-être même en dizaines d'années.
Moi, je dis, c'est un plan à 20 ans. Mm-hmm. Je dis à 20 ans, j'en sais pas trop, mais c'est vraiment cet échelon. Et moi, je pense que finalement, la solution au Sahel, elle appartient aux Sahéliens. Mm-hmm. Et remettre un peu en perspective et remettre un peu en avant les Sahéliens sur leur zone pourrait peut-être nous permettre d'avoir un autre positionnement un peu plus fait de recul.
Oui. Les armées locales, celles du G5 Sahel, alors là, sur le plan militaire, est-ce que c'est une option à développer? Est-ce qu'il faut leur donner plus de missions, Jean-Marc Tanguy? Est-ce que c'est possible, d'abord?
Moi, j'ai eu l'opportunité de voir une de ces armées, la mauritanienne, mm-hmm. en action. Et pour le coup, je crois qu'une armée, quand elle est bien équipée et bien commandée et bien formée, ça donne des résultats. Après, peut-être qu'il y a des bonnes pratiques à prendre en Mauritanie et peut-être être iconoclaste, renverser certaines tables. Mais il ne faut pas oublier une réalité.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, renverser certaines tables?
Disons que peut-être que les choses sont un petit peu trop normées à EUTM et on n'a peut-être pas pris les choses par le bon bout. EUTM, c'est la mission européenne qui forme depuis 2013 l'armée malienne. Il faut quand même dire, puisqu'on parle de la force conjointe du G5 Sahel, que c'est une force qui devait recevoir plusieurs centaines de millions et que pour l'instant
200 millions de
416.
Il y a un gros trou dans la caisse pour l'instant, gros donateurs pour l'instant n'ont toujours pas versé leur chèque et c'est vrai que c'est difficile de faire la guerre sans argent.
Alors on parlait, Ibrahim Maïga, de la place de la France. Est-ce que les difficultés de la lutte anti-djihadiste nourrissent un sentiment anti-français sur place? Est-ce que les soldats français, il y a aussi évidemment le poids de l'histoire, la colonisation, est-ce que les soldats français sont encore les bienvenus au Sahel?
Ah oui, on est très loin de l'image de 2013 et des scènes de l'IS qui avaient suivi l'intervention ou l'arrivée de l'opération Serval au Mali. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée du sentiment anti-français, en particulier dans les capitales sahéliennes. Je pense qu'il faut élargir cela au Burkina, mais aussi au Niger, parce que le Bamako n'est pas la seule capitale concernée par des manifestations contre la présence des forces étrangères, mais en particulier la présence française. Mais je nuancerai quelque part les choses dans la mesure où le sentiment français tel qu'il est perçu dans la capitale malienne ou dans les capitales sahéliennes est parfois loin du sentiment d'insatisfaction qu'on observe dans des localités où Barkhane, par exemple, agit de façon plus directe. Les populations à Gao, à Tombouctou, tout en étant critiques vis-à-vis de l'opération Barkhane, reconnaissent au moins que ce dispositif est nécessaire pour dissuader dans un premier temps, les groupes armés terroristes. Donc, c'est un sentiment à nuancer. Évidemment, on voit une montée de ce sentiment anti-français à Bamako. Mais je pense qu'il est tempéré par un sentiment d'insatisfaction et non de défiance totale vis-à-vis de Barkhane dans des régions où la force est davantage active.
Jean-Marc Tanguy.
Deux phrases sur la bataille des perceptions. En 2013, il faut se rappeler qu'à Tombouctou et à Gao, on a fabriqué des drapeaux français de briques et de broc pour célébrer ces libérateurs. Aujourd'hui, on brûle le même drapeau français à Bamako. Ça pose question. Aujourd'hui, en France, on a eu un sondage. Alors, il faut évidemment être toujours prudent avec les sondages, mais qui donne 58% d'adhésion des Français à l'engagement français au Sahel. 58%, la ligne de crête est quand même assez étroite et assez vite. Ça peut passer en dessous de la barre des 50%.
Bruno Clément-Bollet, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui. D'abord, sentiment anti-français. Quand le président de la République du Mali, c'était dans Jeune Afrique ce matin, dit à la population malienne « Attention, il ne faut pas mordre la main qui vient vous aider », c'est quand même qu'il y a un petit problème. Perception, je veux bien, mais enfin, elle est perçue au plus haut niveau. Ensuite, je voulais dire que je pense que Barkhane est plus que nécessaire. Mais c'est son positionnement sur lequel je m'interroge. Aujourd'hui, il est en première ligne. Et je pense, moi, je suis persuadé que, comme je le disais tout à l'heure, la solution sahélienne, elle appartient aux Sahéliens. Mais ça, si, à partir du moment où on dit ça, ça provoque quatre exigences. La première, c'est que il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance. Le deuxième, c'est il faut pas déserter, il faut les aider. Et les aider massivement, et les aider à en faire des armées comme les nôtres, développées à grande échelle, etc. La troisième, c'est ne pas imposer nos solutions concoctées à New York, Paris ou à Bruxelles, mais accompagner peut-être des solutions africaines. Et je vous assure que sur le terrain, là-bas, il y a des gens qui ont des idées solides. Et enfin, la dernière exigence, c'est qu'il va falloir être très patient, ce que je vous disais. Moi, je vois ça à une échelle de 20 ans.
Qui veut intervenir au Sahel actuellement? La France va demander de l'aide à ses alliés ou à d'autres pays. Qui veut intervenir au Sahel? L'OTAN, les États-Unis donc, la Russie? Est-ce que tous ces gens-là sont intéressés pour avoir leur part d'influence, Jean-Marc Tanguy?
Ouais, alors faut d'abord rappeler que les États-Unis sont là depuis aussi longtemps que nous, c'est-à-dire 2009, hein, avec des drones armés, de l'ISR, également des commandos. Faut pas oublier qu'ils ont quand même eu aussi de grosses pertes à Tongo.
Absolument,
Tongo.
Ouais.
Donc voilà, ils font pas dans la figuration. Après, c'est vrai que leur action est peut-être plus discrète que la nôtre. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ces forces spéciales. C'est quand même 12 pays européens, c'est du jamais vu en matière de forces spéciales, qui veulent participer à cette task force Takuba pour fournir des mentors aux forces armées maliennes. Donc je pense qu'il faut quand même laisser le temps de déclore cette initiative, et personnellement je pense que ça produira quelque chose.
Bruno Clément-Bollet, de votre expérience, des forces spéciales de plusieurs pays, faut pouvoir communiquer.
Je suis beaucoup plus mesuré. J'ai vu la première mission EUTM, il y a quelques années, dans lequel il y avait effectivement, on affichait une quinzaine de drapeaux européens présents dans cette mission. Mais vous aviez des pays qui étaient représentés par deux ou trois personnes. Et j'ai vu en particulier un instructeur estonien, dont il fallait traduire ce qu'il disait en anglais, puis en français, avant de le dispenser
en langue locale.
Donc, je crois qu'on affiche plus, on cherche plus à afficher des drapeaux, à collectionner des drapeaux européens pour donner une idée d'intervention européenne. Mais quant à l'efficacité de l'outil, là, c'est le militaire qui parle, j'en doute.
Ibrahim Maïga, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que des forces spéciales européennes peuvent apporter aux FAMA en très peu de temps?
Je pense que je suis un peu dubitatif aussi sur l'impact que peut avoir cette opération Takuba. Et je constate qu'on ne fait pas usage de trop grandes précautions quand il s'agit d'intervenir au Sahel. Sinon, il était important, à mon avis, de tirer les leçons aussi de l'intervention non seulement de Barkhane, mais aussi de tous les autres acteurs qui interviennent en ce moment sur le terrain. Et je crois qu'il faut préciser aussi que les Maliens,
s'il vous plaît,
l'impression d'être privés de toute forme de prise d'initiative. Et je crois que c'est ce qui renforce aussi le sentiment anti-français, anti-forces étrangères. Donc il est important, de mon point de vue, d'éviter à tout prix cette substitution aux forces sahéliennes et de les mettre devant, justement, en les accompagnant, en les soutenant et en inscrivant cette action dans la durée.
Merci Ibrahim Maïga, merci Bruno Clément-Bollet, merci Jean-Marc Tanguy d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Les deux